C'est dans Shoah,
de Claude Lanzmann. Vers la fin du film, un homme essaye de parler mais n'y arrive pas. Il a la soixantaine et s'exprime en anglais. Il est grand, maigre et porte un élégant costume gris-bleu. Le premier mot qu'il prononce est « now », maintenant. Il dit « je retourne 35 ans en arrière » et puis tout de suite il panique, reprend son souffle, ses mains s'agitent. « Non, je ne retourne pas, non, non ». Il sanglote, se cache le visage, puis brusquement se lève et sort du champ. La place reste vide, on ne voit que des rayonnages de livres, un bureau, des plantes. L'homme a disparu. Au moment où il revient à sa place, son nom apparaît à l'écran, Jan Karski, USA. Et puis au moment où il s'assied, ancien courrier du gouvernement polonais en exil. Ses yeux sont très bleus, baignés de larmes. Sa bouche est humide. « Je suis prêt, » dit-il. Il commence à parler au passé simple même, comme dans un livre.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
C'est en 1985, dans le film Shoah, réalisé par Claude Lanzmann, que nous avons découvert Jan Karski, polonais catholique, résistant, évadé des prisons de la Gestapo, envoyé spécial du gouvernement de son pays, exilé à Londres. Il alerta les Alliés dès la fin de 1942 sur le génocide juif en cours en Europe occupée. D'abord comme émissaire des représentants du ghetto de Varsovie, où il pénétra par deux fois lui-même, mais surtout comme témoin oculaire de la réalité de l'extermination après la visite qu'il put effectuer à l'intérieur d'un camp de la mort près de Varsovie. Chargé par la communauté juive polonaise de demander aux Alliés de lui venir en aide, soit en négociant avec les Allemands, soit en bombardant les voies d'accès au camp, Jan Karski répéta sans relâche son message, en vain. Et lorsqu'à la libération, les vainqueurs dirent « découvrir l'Holocauste », Karski, honteux et désespéré, se mura dans le silence jusqu'à Shoah. L'écrivain Yannick Enel, impressionné par le témoignage de cet homme, entreprit alors d'enquêter sur lui, sur son histoire et les récits officiels de ses rencontres avec les responsables des pays alliés entre 1942 et 1944. En 2009, il publia un livre dans lequel seul le dernier tiers est une fiction, l'écrivain imaginant ce qui a hanté les nuits et les pensées de Jan Karski pendant ses 35 années de silence. Le metteur en scène Arthur Nosiciel décida très vite de porter ce livre sur une scène de théâtre, relevant le défi de transposer ce récit en spectacle, afin que le message, jamais vraiment reçu durant la guerre, soit enfin entendu par une nouvelle génération. Créé en 2011 à Avignon, repris depuis dans de nombreux théâtres en France, Jan Karski, Mon nom est une fiction, se joue en ce moment au Théâtre de la Colline à Paris jusqu'au 18 juin. Arthur Nosiciel et Laurent Poitrenaud sont aujourd'hui les invités de l'Humeur Vagabonde. This was her song. Sing another one. Ooh, this was her song. Ooh, I don't want to sing another one. Ooh, the half-life's 4.4 billion years or more. With babes born, brains scrambled up with their ears. So scared.
killed when we deal with hate.
Très sensible au fait qu'au fond, avec la mort des derniers témoins de la Shoah, quelque chose de la mémoire ne pourra plus se transmettre autrement que par des tentatives nouvelles qui vont passer forcément, qu'on le veuille ou non, que ce soit scandaleux ou non, par aussi de la fiction. Et peut-être le temps des fictions, je veux dire des fictions éthiques, des fictions scrupuleuses, des dispositifs, un peu comme dans l'art contemporain, il y a des installations, le temps de ces dispositifs nouveaux pour essayer de, non pas de dire, mais de continuer à faire écouter quelque chose de ce grand trou noir. Le temps de ces dispositifs est venu. Moi, quand j'ai publié Yann Karski, c'était très simplement ça, mon désir. C'était l'idée que si des gens comme moi, d'une quarantaine d'années, n'entrent pas dans ce mouvement de transmission étrange, alors qu'il fera, en fait. Je pense que tout n'a pas été dit, d'une part, et la vérité même du langage, tous les mots qu'on emploie aujourd'hui, sont de toute manière traversés, travaillés par ce qui a eu lieu de pire dans l'humanité. Ce qu'il y a de plus beau aussi, on en a parlé, mais ce qu'il y a de pire. Si on met ça de côté, les mots qu'on va employer sont inconsistants. Donc pour moi, il est évident qu'il ne s'agit pas de regarder en arrière. Je m'intéresse pas vraiment au passé, mais d'essayer d'entendre ce qui est transporté dans la mémoire elle-même, au fond.
Bonjour Arthur Neuziciel.
Bonjour.
Bonjour Laurent Poitrenaud.
Bonjour.
On vient d'entendre Yann Karski, j'allais dire, non ? On vient d'entendre Yannick Enel, justement, parler de l'importance qu'a représenté pour cet écrivain l'écriture de Yann Karski. Et il le précise à un moment où il y avait une sorte de controverse autour du fait d'employer la fiction, même si lui n'a pris la fiction que dans un tiers de son livre. Il y avait des gens, bon, Claude Lanzmann, disons-le, qui dénonçaient justement l'utilisation dans la littérature de fiction de ces événements, et notamment du témoignage de Yann Karski. Arthur Nozicial, vous partagez le sentiment de Yannick Enel. C'est évidemment au moment où une génération remplace une autre qu'il est important que ce message continue à passer par la littérature, par le théâtre aussi.
C'est-à-dire que le théâtre a très très peu travaillé cette question en réalité, qu'en dehors de quelques adaptations d'Anne Frank ou de l'instruction de Peter Weiss, il y a finalement peu de répertoire. Et puis il y a eu comme ça quelque chose qui s'est glacé à un moment en fait, un empêchement peut-être, quelque chose qui était intimé autour justement de ces notions d'indicible dont on a beaucoup parlé, ou de l'impossibilité d'écrire ou de représenter, ce que je crois aussi. Enfin, je pense que Lanzmann avait trouvé justement la voie la plus puissante et la plus juste, en fait, en faisant Shoah. Maintenant, on peut pas s'arrêter à cet endroit-là. Et en fait, j'ai lu ce livre parce qu'il m'a été envoyé par Yannick, justement après qu'il ait vu Ordette, qui était un spectacle qui posait la question comme ça de la force des mots et du théâtre comme lieu de réparation, et les mots dans leur capacité à faire revenir et ressusciter les morts. À la suite de cette écriture, Yann Karski, il a fait un lien avec Ordette qui venait de voir, et m'a envoyé le livre. Donc j'étais très frappé par une première chose, qui était, vous avez commencé à l'aborder, la question du dispositif, c'est-à-dire, ce qu'il a fait, lui, Yannick, c'est un tiers du livre, la partie fiction n'est qu'un tiers du livre. Et il y a deux autres parties qui sont très importantes. La première, c'est la description du témoignage de Yann Karski dans le film de Claude Lanzmann, Shoah. Et la deuxième partie, c'est à partir de l'autobiographie de Yann Karski, qu'il avait appelé Story of a Secret State, et étrangement traduit par Mon témoignage devant le monde, écrit en 43-44, et qui a été un best-seller aux États-Unis. C'est pour ça que le procès d'intention qui a été fait à Yannick n'était pas très juste, dans le fond, puisque, quelque part, je dis pas qu'il se couvre, mais en tout cas, avant d'arriver à ce cœur de la fiction, il nous fait faire un voyage à travers des données dont on dispose, qui sont le témoignage d'un film, l'autobiographie de Karski par lui-même, et puis cette échappée dans l'imaginaire, ou en tout cas dans une rêverie éveillée de Yann Karski. Et donc, ce dispositif, en tant que dispositif, déjà, est très intéressant, parce que le théâtre, c'est pas, en tout cas pour moi, pas juste de l'illustration, ou pas juste faire la morale, ou faire un cours d'histoire. Donc le fait qu'on ait ce dispositif, c'est une forme, il a inventé une forme qui permet peut-être de se rapprocher d'une forme de vérité qui est au-delà des mots, qui a à voir avec l'invisible, avec justement ce qui est non dit, ou une parole qui s'épuise, qui est plus mystérieuse, et qui permet de donner le ressenti de quelque chose de si immense. Et je dirais que c'est ça, moi, qui m'intéressait. C'est la forme. Peut-être que j'attendais depuis longtemps de faire quelque chose autour de ça, mais j'avais pas trouvé l'objet ou la forme qui allait me le permettre. Et ensuite, pour répondre plus directement à votre question, c'est vrai que c'est un spectacle qui, pour moi, a des résonances très intimes, puisque je suis d'une famille dont plusieurs membres ont été déportés, ont été à Auschwitz et sont revenus. Que le terme de revenant est très fort dans mon histoire, c'est cette chose du fantôme, quelqu'un qui vient hanter la génération suivante, c'est très prégnant, et que j'ai lu ce livre un peu par concours de circonstances, quelques jours après le décès de mon oncle, qui avait été déporté, et qui a été le premier à parler dans cette famille, moi ayant été l'aîné aussi, le premier à entendre ce qu'il avait à dire. Donc on avait ce lien très fort, ce lien s'étant fait pendant l'adolescence pour moi, où cet oncle m'a raconté ses 3 ans à Auschwitz. Et en fait, vraiment, de lire ce livre peu de temps après son enterrement, ça a été comme une énorme gifle en fait, puisque d'un seul coup, je réalisais à quel point il allait nous manquer. Je parle pas d'un point de vue affectif, je parle manquer parce qu'il était le détenteur d'une histoire. Et tant qu'ils étaient là, ces gens-là, c'était bien pratique en fait, parce qu'on pouvait compter sur eux. À partir du moment où ils sont plus là, on se sent chargé d'une parole, d'un témoignage hyper précieux, et en se disant, mais qu'est-ce que je vais en retenir et qu'est-ce que je vais être capable, moi, d'en transmettre. Et c'est assez violent, en fait, cette sensation, cette responsabilité comme ça dont on se sent chargé. Et c'est vrai que je me disais, ben voilà, avec Yannick, on a à peu près le même âge, et lui n'est pas juif, et il s'empare de ça, et en ouvrant son livre avec cette phrase de Céline, témoigner pour le témoin, et qu'effectivement, il me semblait très urgent, à l'heure où les témoins vont disparaître, de trouver une voie possible dans tous les sens du terme, la voix, une voix possible, afin de à côté des historiens, on ne pourra pas se substituer à l'archive, à l'histoire, mais à côté de ce travail-là, qu'est-ce que la fiction ou l'art peut tenter d'inventer pour assurer une transmission encore à une autre génération.
D'ailleurs, en 2010, lorsque Claude Lanzmann a attaqué si violemment Yannick Enel, c'est Georges Semproun, qui lui avait été déporté à Buchenwald et qui connaissait bien cette réalité, qui a répondu en disant « c'est important, notre génération arrive à son terme, il est important que la nouvelle génération le reprenne, ce message, ce témoignage, et le reprenne comment ? Ben, sous des formes qui sont les leurs, des formes artistiques. » Vous, Laurent Poitrenaud, quand vous avez lu le livre de Yannick Enel, ça vous a semblé important que ça dépasse les pages du livre, que vous, votre moyen d'expression, c'est l'art théâtral, l'art dramatique, ça vous a semblé tout de suite quelque chose d'important dans ce que vous portez sur vos épaules comme acteur ?
Oui, ça a été comme une chance ou comme un cadeau par rapport à cette question qu'évoquait Arthur. Moi non plus, un peu comme Yannick Enel, je ne suis pas d'une famille juive, donc j'ai pas de rapport intime dans ma famille à cette histoire-là, mais simplement assez jeune, adolescent, vers 15-16 ans, quand j'ai d'abord vu Nuit et brouillard, et puis assez vite derrière Shoah de Lanzmann, ça a été des chocs successifs, et c'est une question ensuite à laquelle je me suis toujours confronté. Je ne savais pas comment dire autrement que cette question m'appartenait, mais je ne savais pas pourquoi, comment, je pouvais pas mettre plus de mots que ça. Et donc j'ai beaucoup lu, je lisais beaucoup de choses autour de cette question-là, mais voilà, sans pouvoir rien faire. Et quand ce projet arrive dans ma vie d'acteur, la vie d'un acteur, voilà, elle n'est pas toujours faite de grands cadeaux, et là c'est plus qu'un cadeau. D'ailleurs, je peine à parler de spectacle quand je joue Yann Karski, c'est-à-dire que on est un peu au-delà, je sais pas, c'est lors d'une cérémonie, d'un rapport à la mémoire. Enfin, j'ai l'impression que mon métier me permet justement à ma toute petite échelle, d'être un peu un maillon de la chaîne de ces témoignages. Alors quand notre art d'acteur peut nous permettre de vivre ça, c'est ça qui anoblit notre métier.
Alors ce spectacle mis en scène par Arthur Nosiciel, qui a été créé en 2011, a beaucoup tourné. Il suit scrupuleusement le découpage du livre de Yannick Enel en trois parties. La première partie, c'est la retranscription du témoignage de Yann Karski devant la caméra de Claude Lanzmann. Et c'est Arthur Nosiciel lui-même qui est en scène. On écoute un extrait.
Nous avons contribué à l'humanité. Nous sommes humains. Ce qui arrive à notre peuple est sans exemple dans l'histoire. La voix de Yann Karski mêle à ce message destiné au monde les suppliques que les deux hommes lui ont adressées afin qu'il accepte d'en être le porteur. Peut-être cela ébranlera la conscience du monde. Bien sûr, nous n'avons pas de pays, pas de gouvernement, aucune voix dans le Conseil des Nations. C'est pourquoi nous avons recours à des gens comme vous. Allez-vous le faire ? Remplirez-vous votre mission ? Yann Karski répète avec une voix brisée, comprenez-vous, comprenez-vous, do you understand? C'est comme si les phrases s'adressaient à nous qui regardons Shoah. Allez-vous le faire? Les phrases de Yann Karski viennent de loin, elles semblent perdues dans le temps, vouées à une répétition désespérée. Car la conscience du monde, comme il dit, a-t-elle été vraiment ébranlée? À ce moment-là du film, en écoutant la voix de Yann Karski, on sait que non. 60 ans après la libération des camps d'extermination d'Europe centrale, on sait qu'il est impossible d'ébranler la conscience du monde parce que la conscience du monde n'existe pas, le monde n'a pas de conscience. Et sans doute, l'idée même de monde n'existe-t-elle plus.
Arthur Nosiciel, je vous ai entendu et j'ai entendu Laurent Poitrenaud à chaque fois employer un peu la même expression, c'est-à-dire vous vous dites, moi, dans ma famille d'origine juive, il y a eu des déportés. Laurent, dire, moi qui ne suis pas juif, mais au fond, ça n'a pas d'importance parce que pour nous, les générations qui sont nées après la guerre, cette histoire, elle est la nôtre. Il n'y a pas à ce moment-là de différence entre les origines, les religions. C'est une histoire qui repose sur notre dos. Et là, on vous entendait employer les mots de Yann Karski, dire au fond, cette histoire, nous en sommes comptables, nous en sommes responsables, nous en sommes dépositaires.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais tout le monde ne le vit pas comme ça non plus. Et je dirais que c'est une conscience qu'on peut avoir pour aussi d'autres choses. Enfin, je veux dire, depuis, le monde est traversé par des moments sismiques, enfin, qui nous renvoient à notre propre responsabilité, à notre propre conscience. Il y a eu le Rwanda, puis il y a eu des choses avant. Mais c'est vrai que ce qui est singulier dans la Shoah, c'était la mise en place de ce phénomène de masse, comment 14 pays européens se sont mis d'accord pour mettre à la disposition des nazis leurs services publics, leur administration, leurs fonctionnaires, dans le but d'identifier, ficher, arrêter, transporter puis déporter une partie de leurs citoyens. C'est unique réellement dans l'histoire. En allant à Auschwitz, la première fois, et en voyant l'immensité vide du camp d'extermination de Buchenwald, on a l'impression que quelque chose de l'origine qui se retrouve là. Quelque chose de l'origine du monde dans lequel on est aujourd'hui, comme si cet endroit marquait le point de départ de quelque chose avec une énorme toxicité dont on perçoit à peine d'ailleurs aujourd'hui la puissance dévastatrice qu'elle peut avoir. Moi, je pense que tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on traverse, trouve son origine à cet endroit. Et ça me, quand on parle de l'Europe aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de voir ce plan à l'entrée du camp où on voit Auschwitz qui est le centre de l'Europe et toutes les flèches qui arrivent de tous ces pays. Et ces flèches sont les chemins de fer, les réseaux de chemins de fer qui arrivaient là. C'est comme si l'Europe s'était constituée là. Et cette conscience qui devrait être partagée, qui l'est peut-être de manière plus ou moins consciente, pour moi, elle trouve son origine là. Et ce qu'on traverse aujourd'hui, même la question des réfugiés telle qu'elle est posée aujourd'hui, elle se repose parce qu'elle s'est posée de cette façon-là à l'époque. Personne n'en a voulu. Les frontières, à un moment, étaient ouvertes. Et personne n'a voulu de ces gens qui partaient de ces pays où ils étaient chassés, massacrés, pas un, comme on dit les Canadiens. Et ben voilà, la question, elle se repose et elle se reposera. C'est en ça que c'est une conscience collective. Ouais. Après, il y a la dimension consciente, je dirais, et la dimension inconsciente. Je sais pas, pour moi, ça a à voir avec de la radioactivité, quelque chose qui est à peine perceptible, mais qui est là, qui transpire, qui... ouais.
Mais d'ailleurs, j'ai été frappée de lire, sous la plume de Yannick Enel, son lien avec une phrase de Kafka, pourtant écrite bien longtemps avant tout ça. Et il dit, je n'ai compris en fait cette phrase de Kafka que je vais vous lire, que lorsque justement j'ai travaillé sur la Shoah. Kafka avait écrit, loin, loin de toi se déroule l'histoire mondiale de ton âme.
Ouais.
Et effectivement, cette histoire, Laurent Poitrenaud, vous, quand vous entendez cette phrase de Kafka, ça exprime quelque chose de cet écho que l'histoire trouve dans nos âmes contemporaines.
Oui, tout à fait. C'est voilà. Puis là, la phrase se poursuit par le Jan Karski, rêvé par Yannick Enel, qui dit on croit que l'histoire mondiale se déroule très loin de nous, alors que là, en fait, c'est notre histoire. Et il dit, et ce qui me parle dans les nuits blanches, en s'adressant un peu à tous ces êtres dont il a essayé de porter la parole, d'essayer de sauver, ce qui me parle dans cette nuit blanche, c'est cette histoire mondiale de nos âmes, quoi. Et c'est vrai que le théâtre, on joue avec ça déjà naturellement. On est avec des fantômes en permanence naturellement. Mais alors là, on va dire que là, on est en version XXL, c'est-à-dire que là, c'est encore plus vibrant, brûlant. Et c'est beau, encore une fois, de réussir de temps en temps à mettre son art au service de quelque chose qui est plus grand que toi.
Alors dans la troisième partie du spectacle, comme dans la troisième partie du livre de Yannick Enel, c'est vous, Laurent Poitrenaud, qui interprétez cette rêverie de Jan Karski pendant ces 35 années de silence.
On a laissé faire l'extermination des Juifs. Personne n'a essayé de l'arrêter. Personne n'a voulu essayer. Lorsque j'ai transmis le message du ghetto de Varsovie à Londres, puis à Washington, on ne m'a pas cru. Personne ne m'a cru parce que personne ne voulait me croire. Je revois le visage de tous ceux à qui j'ai parlé. Je me souviens parfaitement de leur gêne. C'était à partir de 1942. Étaient-ils aussi gênés, 3 ans plus tard, lorsque les camps d'extermination ont été découverts? Ça ne les gênait pas de se proclamer les vainqueurs, ni de faire de cette victoire celle du monde libre. Comment un monde qui a laissé faire l'extermination des Juifs peut-il se prétendre libre? Comment peut-il prétendre avoir gagné quoi que ce soit? Il n'y a pas eu de vainqueur en 1945. Il n'y a eu que des complices et des menteurs.
They described to me what is happening to the Jews. Did I know about it? No, I didn't. They described to me first that the Jewish problem is unprecedented, cannot be compared with the Polish problem or Russian or any other problem. Hitler will lose this war. But he will exterminate all Jewish population. Do I understand it? The allies fight for their people. They fight for humanity. The allies cannot forget that the Jews will be exterminated totally in Poland. Polish and European Jews. They were breaking down. They paced the room. They were whispering. They were hissing. It was a nightmare for me.
On vient d'entendre la voix de Jan Karski dans le documentaire Shoah réalisé par Claude Lanzmann. Arthur Neuvisiel, vous le disiez, on peut pas appeler ça une pièce de théâtre, un spectacle, on a déjà du mal à le dire. C'est quelque chose qui se passe en scène et j'imagine que ça a dû être assez compliqué pour vous d'imaginer quelque chose qui nous permette d'entendre l'intensité de ce témoignage, de passer ensuite en deuxième partie dans quelque chose de très différent, puisqu'il y a une projection vidéo d'un artiste polonais, Mirosław Balka, à qui vous avez demandé de créer quelque chose autour du livre de Jan Karski. Et puis, en troisième partie, il y a Laurent Poitrenaud qui interprète cette partie fictionnelle du livre de Haenel. Il est dans la tête de Jan Karski. Les corps sont assez immobiles, le vôtre, celui de Laurent Poitrenaud, mais en même temps, il y a quand même un dispositif. Comment est-ce que vous avez réussi à résoudre cette équation compliquée ?
C'était un spectacle difficile à penser, oui. Très difficile. En même temps, il s'est décidé, entre le moment où on a décidé de le faire et la création, il y avait assez peu de temps. Enfin, j'ai eu assez peu de temps par rapport à d'autres, un an et demi. Donc, ça a été un travail assez intense, on va dire, de concentration. Ça n'a pas été difficile que pour moi. Ça l'a été, par exemple, pour mon décorateur, Ricardo Hernandez, qui est un décorateur américain avec qui je travaille depuis quelques années, qui lui aussi sentait qu'il fallait échapper à l'illustration, au décor. Enfin, je crois que c'était vraiment difficile pour tout le monde. Ensuite, ce qu'il fallait, c'était trouver les bonnes personnes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire les gens qui comprennent qu'on allait être, justement, comme vous le dites, au théâtre et pas que au théâtre. Le choix de Laurent, par exemple, parce que on peut pas prendre un acteur qui ne va être occupé que de jouer son rôle. On est obligé de travailler avec quelqu'un qui, est, au-delà de son talent d'acteur, est aussi une personnalité, quelqu'un de, une personne qui peut être en résonance par rapport à quelque chose et s'oublier derrière un projet ou en tout cas prendre et s'engager dans quelque chose qui nous dépasse. Ce qui est le cas de Laurent et avec qui on avait déjà une histoire de théâtre, enfin depuis longtemps. C'était des retrouvailles aussi. La question du film, elle est très importante. Puisque là, pour la deuxième partie, je voulais confier cette deuxième partie à un artiste. Je voulais pas que ce soit du documentaire ni de l'archive qui vienne raconter Karski. Et donc, j'ai assez vite pensé à cet artiste polonais très important qui s'appelle Mirosław Balka, qui est très connu à l'international, qui a eu des rétrospectives à l'Arena Sofia, au MoMA, qui bizarrement est très peu connu en France. Et j'avais vu son travail à la Tête Moderne, à Londres, dans la Turbine Hall qu'on lui avait confié, où il avait fait un travail assez impressionnant, qui était un énorme conteneur suspendu, complètement noir, et dans lequel on disparaissait, c'est-à-dire qu'on rentrait dans ce conteneur et le noir était tel qu'on disparaissait même à soi-même. C'était une expérience assez étrange. Et le travail de Mirosław, il est sur la disparition, il est sur l'absence, et j'ai découvert que ce travail qu'il faisait comme sculpteur, et puis maintenant comme vidéaste, est lié à la disparition des Juifs de Pologne. Et que comment, lui qui a 55 ans, et dans sa génération en Pologne, où il y a vraiment eu une chape de plomb, dans tous les sens du terme, sur cette histoire, s'en est emparé, a été un des premiers artistes à vraiment se cogner la question, dans un pays où c'est pas facile justement de l'aborder, et que son travail est fait autour de ça. Et puis, pour moi, c'était important de trouver un prétexte pour aller en Pologne, puisqu'étant d'origine juive polonaise, j'avais toujours entendu dans ma famille que non, plutôt crever que d'aller en Pologne. Et donc, je me suis dit, j'aimerais bien y retourner et puis faire quelque chose qui me permette en tout cas de construire une autre histoire qui serait la mienne là-bas. Et de fait, travailler avec un artiste en Pologne et un artiste polonais, c'était une façon, au-delà de l'idée même de réparation, c'était pour moi une façon de créer des liens nouveaux et de me réapproprier quelque chose. Et je suis tombé sur cet homme qui est un des grands artistes aujourd'hui parce qu'il a une capacité, c'est un artiste très conceptuel, avec une vraie puissance comme ça, conceptuelle, mais en même temps c'est quelqu'un extrêmement sensible et avec une élégance rare. Et ça a été une magnifique rencontre et assez rapidement il a accepté de faire ce film qui était peut-être secrètement ce que j'espérais pour cette deuxième partie, mais sans arriver moi-même à me le formuler, ou en tout cas pouvoir imaginer une chose aussi radicale et en même temps aussi géniale, quoi. Pour reparler de ce que c'est que le ghetto, de ce que c'est que l'épuisement de parcourir le ghetto, comment son film fait ressentir ce que Semproun disait, justement. Il disait, il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais documenter, c'est la nausée, c'est l'odeur. Et je trouve que le film de Balka arrive à raconter ce vertige, arrive à raconter l'épuisement. Faut savoir, et Laurent parlera peut-être, que quand on a visité et quand on est retourné sur les traces de ce qu'était le ghetto, il nous a fallu presque 8 heures pour le faire. C'est immense. Et le film arrive à en rendre compte, et là-dessus, on a posé la voix de Marthe Keller. Et c'est vrai que cette rencontre avec Miroslav était très importante. Et je parle de l'épuisement pour en revenir aussi au corps, puisque vous me posez la question. On a beaucoup marché pour arriver à avoir la perception physique en nous de ce qu'était cet espace en plein centre, en plein cœur de Varsovie. Et même si les corps ont... finalement, donne peut-être l'impression d'une certaine immobilité. Ils le sont pas tant que ça. Je crois d'abord Laurent se déplace finalement beaucoup et que les déplacements dans l'espace de Laurent correspondent plus ou moins au plan du ghetto de Varsovie, qui sont ce plan qu'on voit dans la deuxième partie. Il y a les fantômes, il y a comment ça marche, quelqu'un qui est habité, qui est à tel point habité, comment le corps est le dépositaire de la mémoire, en fin de compte. C'est le lieu de la mémoire, le corps. Et d'où l'idée aussi de terminer le spectacle par... alors ça fait très bizarre de dire par une chorégraphie, une danse. En tout cas, le prétexte est peut-être de se dire qu'à un moment, Karski a épousé une danseuse. Et qu'on fait revenir cette danseuse qui était à la création Alexandra Gilbert, qui est une danseuse magnifique. Maintenant, le rôle est repris par une autre très belle danseuse qui s'appelle Manon Greiner. Et il y a eu la collaboration avec un partenaire pour moi important dans plusieurs de mes spectacles, qui est Damien Jallet, qui est danseur et chorégraphe. Et Damien est quelqu'un qui comprend très bien ce qu'on cherche à rendre compte dans le travail qu'on fait au théâtre et dans ce spectacle en particulier. Et là, d'ailleurs, il était même collaborateur artistique, pas juste chorégraphe, mais c'est lui qui m'a fait travailler, qui a fait travailler Laurent sur ça, comment le corps et la mémoire fonctionnent ensemble, et sur cette chorégraphie de la dernière partie que je trouve très émouvante, parce qu'elle est aussi... elle est le retour en arrière, elle est à la fois une danse mais aussi un flashback, elle est quelque chose qui raconte voilà, qui raconte comment ce corps est dépositaire de la mémoire et dans le même temps tel qu'il est chorégraphié, ça raconte aussi le retour dans le passé. Je dirais que de toute façon au théâtre en général j'ai une vraie conscience du corps et du physique, de comment le corps a son vocabulaire propre qui reprend quelque part peut-être on va dire les motifs du spectacle ou comment le corps a quelque chose à raconter. Mais dans ce spectacle en particulier, aussi bien pour le décor que pour le film, que pour le corps, je dirais, il fallait arriver à ne pas tomber dans les clichés qu'on a d'habitude sur cette représentation. J'ai envie de dire, comment on fait pas du métal et du verre dans le décor, parce que ce sont les représentations archétypales sur cette thématique, mais aussi comment on évite le corps torturé, gisant, hurlant, comment on allait réinventer quelque chose qui nous appartienne et qui soit juste par rapport à ce spectacle. Et c'est vrai que ça a été un spectacle très difficile à faire, mais à partir on a trouvé ces bonnes personnes, que ce soit Ricardo, Miroslav, Marthe Keller, Alexandra, Damien, Laurent. Il fallait être à l'écoute de comment tout ça allait résonner pour chacun et de ces êtres voilà, merveilleux qui ont participé à cette création.
C'est vrai que dans le spectacle Arthur Novicial, il n'y a pas beaucoup de, évidemment, de gestes, mais il y a des corps et les corps parlent. Alors je sais que vous avez tous les deux travaillé beaucoup avec Pascal Rambert. Vous, de mes propres mains, on se souvient de ce one-man show intense. Laurent Poitrenaud, pareil. Dans Argument, donc vous êtes habitué à avoir ces corps qui, j'ai l'impression qu'ils exsudent la parole, c'est-à-dire qu'il y a une vibration. Alors Arthur Nozichel vient de dire que vous vous déplacez, moi j'ai eu l'impression d'une immense immobilité, une immobilité habitée, Laurent Poitrenaud. Comment est-ce que vous avez travaillé avec ce texte pas simple?
Faut aussi parler un peu de la méthodologie d'Arthur. En général, dans ses spectacles, on fait un long travail à la table, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les spectacles. On peut rester des semaines et des semaines à la table avant d'aller sur le plateau, qui est une manière, justement, un peu de ce que vous dites, de faire descendre le texte dans le corps, dans la tête, mais dans le corps aussi, d'y connaître toutes ces couches et de ne pas en donner qu'une seule, mais peut-être pouvoir en donner 3, 4, 5, et tout ça prend du temps. Ce qui fait qu'une fois qu'on arrive sur le plateau, on est déjà dépositaire d'une mémoire très forte. Et après, dans le spectacle-là, moi, j'ai rarement eu une scénographie pour ma partie, si je parle que de ma partie, aussi prégnante. C'est-à-dire, le décor est pour moi comme un partenaire. C'est-à-dire, cette reconstitution un peu déformée d'un couloir de l'Opéra de Varsovie.
Où on entend d'ailleurs l'air de Bizet, des Pêcheurs de Perles, qu'on a passé il y a quelques minutes.
Qui a une légère pente, qui tourne un peu, comme s'il partait en vrille. Donc, c'est comme une anamorphose un peu. Donc, c'est un peu étrange. Donc, déjà, le décor en soi me fait jouer, me fait parler, me fait résonner. Et entre le travail très consciencieux, très laborieux mais nécessaire du travail à la table et ce passage dans cette scénographie qui est comme un partenaire, il est habité, c'est un décor habité, les deux mélangés font d'un seul coup j'ai plus qu'à être au milieu de ça et en restant sur la ligne de crête, mais c'est vraiment, voilà, le travail s'est fait comme ça.
En même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser que ça doit être littéralement épuisant, beaucoup plus que de participer à des pièces de théâtre comme L'Avare, par exemple, de Ludovic Lagarde, où on vous a vu, où vous bougez beaucoup. Mais on se dit que cette immobilité intense et ces mouvements imperceptibles sont beaucoup plus épuisants pour l'acteur.
Oui, c'est une lessiveuse. C'est un peu. Et puis surtout, c'est ce qui. En fait, à partir du moment où je commence les premiers mots qu'on a entendus, d'ailleurs, dans l'extrait, on a laissé faire l'exprimation. Je sais que quand moi je prononce ces mots, ça y est, c'est la fin de Bizet, je commence à dire ces mots, je sais que je pars pour 1h25 de texte et où quelque chose ne va plus s'interrompre. Et c'est un peu vertigineux. À partir du moment où je commence à parler, j'ai toujours un petit moment de vertige où. Ça y est, c'est parti, quoi. Et ça va plus s'arrêter jusqu'au moment où je dirais j'ai recommencé à vivre. Là, je sais que ça va être ça mon point de chute. Mais ça, c'est au bout d'1h25. C'est complètement troublant de se lancer. Parce qu'il n'y a plus que la parole qui me tient, en fait. En fait, c'est la parole qui me tient debout, vraiment. En général, je pense au théâtre et dans les projets que j'aime faire. Mais là, alors là particulièrement, c'est qu'une fois que j'ai commencé à parler, en fait, il ne faut plus lâcher la parole. Et d'ailleurs, c'est ce que fait dire Yannick Enel à Yann Karski. Si on ne s'arrêtait jamais de parler, si la parole pouvait coïncider avec la moindre parcelle de notre existence, et que chaque instant ne soit plus que parole, il n'y aurait plus de place en nous pour la mort. Il y a un peu comme cette utopie-là. Et ça, c'est vrai que je le ressens très fort. Et donc, je sors un peu comme exsangue. Et en fait, ce qui est beau aussi dans le spectacle pour moi, c'est qu'heureusement, le spectacle ne se termine pas avec moi, mais justement avec l'arrivée de la danse, hein, qui fait que moi, j'ai encore comme un sas. Et le public aussi a ce sas, parce que Dieu sait que ça a parlé, Dieu sait qu'il y a eu des mots. Et c'est comme si le corps prenait le relais, pour le coup, seul. Et je sais que c'est un moment fondamental pour moi pour revenir, entre guillemets, à la vie, moi aussi. En tout cas, à la vie de tous les jours avec les spectateurs. Oui.
Mais d'ailleurs, il y a aussi dans ces mots de ce spectacle l'apparition du corps de Yann Karski, parce que lui aussi, étant dépositaire de ce message non reçu, lui aussi, son corps a souffert.
Ainsi, il m'est devenu absolument impossible de dormir depuis le 28 juillet 1943, c'est-à-dire depuis plus de 50 ans, je n'ai pas trouvé le sommeil. Si je n'arrive pas à dormir, c'est parce que la nuit, j'entends la voix des deux hommes du ghetto de Varsovie. Chaque nuit, j'entends leur message. Ils se récitent dans ma tête. Personne n'a voulu entendre ce message. C'est pourquoi il n'en finit plus depuis 50 ans d'occuper mes nuits. C'est un véritable tourment de vivre avec un message qui n'a jamais été délivré. Il y a de quoi devenir fou. Ainsi, les nuits blanches s'ouvrent-elles pour lui ? Elles l'accueillent. J'ai passé plus de la moitié de ma vie à penser à la Pologne, au ghetto de Varsovie, aux deux hommes qui m'ont chargé d'un message que personne n'a voulu entendre. J'ai passé mes nuits à penser à ces deux hommes et à tous les hommes qu'ils représentaient, à ce message qui continuait à vivre en moi alors qu'ils étaient morts, assassinés.
Thank you. très loin des victimes. J'étais parmi les vivants, dans le monde homicide, et je m'accrochais à la vie. Je n'étais pas un bourreau, pourtant, alors qui étais-je? Personne n'échappe à cette abjection qui partage les hommes entre ceux qui meurent et ceux qui donnent la mort. Toute ma vie, j'ai essayé de sortir de ce partage, de faire un saut loin de ceux qui accompagnent le meurtre, loin des vivants qui sont à côté quand ça a lieu. Car il y a les victimes, il y a les bourreaux, mais il y a également ceux qui sont à côté. Ce sont les mêmes qui toujours vous font croire qu'ils ne savent rien, qu'il ne s'est jamais rien passé, qu'ils n'ont rien vu. Et d'ailleurs, si quelqu'un vient leur parler de crime, ils prétendront ne pas le croire. Que vous soyez à 3 mètres du poteau d'exécution ou à des milliers de kilomètres, la distance est la même. Car à partir du moment où un vivant éprouve sa distance avec un homme qu'on met à mort, il fait l'expérience de l'infamie. La distance qui nous sépare des hommes qui meurent s'appelle l'infamie. Et vivre n'est jamais qu'une manière de se confronter à cette distance.
Arthur Nuzicial, on entend dans la voix de Laurent Poitrenaud les mots imaginés cette fois-ci par Yannick Enel. Imaginez que Yann Karski a pu les penser, mais en même temps, il écrit des choses que l'on pense, nous, aujourd'hui, en voyant tous les jours les images de ce qui se passe en Méditerranée, en Syrie, en Afghanistan, en Pakistan, partout. Et en fait, c'est terrible à entendre, mais c'est la pure vérité. Il n'y a pas de hoquet de surprise en entendant que nous ne sommes pas innocents. Aucun d'entre nous n'est innocent. C'est bien ça, ce qui ressort de ce texte.
Oui, j'espère qu'on touche à une forme, enfin c'est un mot tellement galvaudé, une forme d'universalité, qu'en tout cas ça puisse venir résonner et vibrer avec quelque chose de très fondamental en nous. Après, j'espère que qu'on ne tombe pas non plus dans la leçon de morale ou qu'on ne vient pas se complaire entre soi de gens bien d'accord pour dire que la misère c'est horrible et que la guerre c'est mal. Mais qu'au contraire, et je pense que c'est la force de l'écriture, ça relève quand même voilà, de la grande littérature et d'une vraie poésie. Et qu'en fait, Enel arrive à mettre comme ça des mots sur quelque chose d'aussi essentiel, nous réconcilie aussi avec une part de nous-mêmes. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'on repart aussi, et j'espère qu'on repart avec quelque chose, et pas juste assommé, mais avec quelque chose. Alors, une conscience élargie peut-être, qui peut nous donner envie de s'engager davantage, en tout cas, ce sentiment d'être plus conscient. Je pense que c'est une chose en plus avec laquelle on peut ressortir. Après, libre à chacun et chacune d'en faire quelque chose. Mais j'espère qu'on touche à cette profondeur-là ou à cette exigence-là qu'il y a en chacun. L'idée, elle est plus d'aider les gens à se redresser que de les assommer. Et de surtout pas, même si on donne un auditoire un message qui n'en a pas eu, en tout cas, on n'a pas à en délivrer, je dirais. Et c'est un état. Une hauteur de conscience, en fait, je trouve qu'il est important. Des fois, on perd cette vue, quoi. Ouais, je dirais comme ça.
Laurent Poitrenaud, ce spectacle a été créé en 2011. Il a tourné déjà beaucoup. Il est repris en ce moment à la Colline à Paris. Je pense qu'il va continuer à vivre. Est-ce que pour vous aussi, c'est au fond une façon de montrer que le théâtre et la littérature sont des moyens aussi de vivre avec la réalité du monde?
Ah, si on arrive à cette équation-là, oui, c'est absolument merveilleux, mais surtout en faisant confiance à la poésie, à l'art, et sans justement devenir des donneurs de leçons, de pas faire du théâtre dit politique, avec tout ce que ça pourrait avoir de réducteur, mais justement d'aller plutôt du côté de l'art et d'élévation pour affronter justement des questions peut-être plus triviales et plus concrètes dans nos vies. Si le théâtre peut donner cette force-là quand on ressort dans la rue, voilà, c'est tant mieux, mission accomplie alors.
Alors, est-ce que ça veut dire, Arthur Nuzicial, que Yann Karski, Mon nom est une fiction, est loin d'avoir terminé sa course aujourd'hui à la Colline? C'est quelque chose qui va encore vous accompagner et nous accompagner?
Mais oui, en fait, depuis que je suis au Théâtre National de Bretagne, Depuis janvier, voilà. Donc, on a prévu de le reprendre à Rennes la saison prochaine. En mars, je crois. Et du coup, le spectacle repart deux mois en tournée. Donc, on va aller à Lille, à Bordeaux, à Saint-Brieuc. J'espère, je crois
à
que
Nantes.
À Nantes, Merci. Voilà, donc il y a à nouveau quelques dates. Il y a 2 mois de tournée la saison prochaine, ce dont évidemment moi je me réjouis. Je trouve que c'est magnifique que des spectacles puissent se jouer dans la durée et qu'on puisse aussi grandir avec eux. Moi, je trouve quelque chose de, au-delà même du fait que les spectacles sont vus, de l'intérieur même, il y a quelque chose de d'émouvant à se dire que les choses, elles sont toujours là, qu'on les lâche pas complètement, qu'on les abandonne pas. Je trouve ça émouvant. Ouais.
Comment ça se passe pour vous au TNB?
J'arrive. Écoutez, il y a quelques jours, on a présenté la première saison, voilà, de cette nouvelle direction.
Des beaux projets.
On est dans les reprises. Moi, j'avais envie de rencontrer le public qui me connaît pas. J'ai jamais joué à Rennes, comme la plupart des artistes invités et associés au projet. Et je vais reprendre Jules César, qui était aussi une belle pièce politique et aussi sur la force du verbe, justement, avec les acteurs américains de Jules César. Et puis ma dernière création, faite en Corée, qui s'appelle L'Empire des Lumières, et qui raconte l'histoire d'un espion, en tout cas ses 24 heures. Et à travers ça, et c'est très lié à Karski, justement, c'est l'histoire de la Corée est une histoire terrible, hein, qu'on connaît mal. Et cette séparation, cette division, cette coupure, dans le sens fort du terme, entre ces deux pays et ces gens, c'est aussi une histoire qui vient hanter de génération en génération, avec une, voilà, et comment les gens aujourd'hui vivent avec cette, à la fois cette frontière visible, mais en même temps avec toutes ces blessures profondes qui se sont transmises de génération en génération, et comment aujourd'hui des gens sont un peu consternés de voir que, voilà, qu'il y a un oubli, il y a un oubli de tous ces gens disparus pendant cette guerre et de la situation de leurs membres de la famille, comme ça, de l'autre côté. Et le spectacle était aussi une tentative comme ça de réparation ou de relier des générations et de redonner une voix à des absents.
Eh bien, on ira le voir à Rennes. Vous, Laurent Poitrenaud, je le disais, vous allez reprendre avec Ludovic Lagarde l'Avare qu'il a créé à Strasbourg. Non, pas à Strasbourg, à Reims, bien sûr. Oui. C'est l'Est, mais bon, c'est Reims. Et vous avez d'autres projets?
Ça sera une saison de reprise. Mmh. Voilà. Et je suis très heureux de, voilà, parce que c'est des spectacles qui vivent depuis sur plusieurs années, que ce soit Yann Karski et l'Avare. Et c'est pas si courant de pouvoir vivre avec des spectacles sur le long terme. Et pour un acteur, c'est assez important parce que sinon, voilà, on passe de spectacle en spectacle et tout ça n'a pas grand sens.
Eh bien, c'est bien. On a toujours envie d'aller revoir pour savoir si on a vraiment, si on est sûr d'avoir aimé.
Mais oui.
Voilà. Donc, on vous retrouvera tous les deux bientôt. Merci beaucoup. Et je rappelle que Yann Karski, Mon nom est une fiction, c'est en ce moment au Théâtre de la Colline et c'est jusqu'au 18 juin. Merci à vous.
Merci.
Au revoir. C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour, mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 15h, vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière et les Saventuriers. Quant à nous, on se retrouvera, si vous le voulez bien, dimanche prochain, aux environs de 14h. Je recevrai l'écrivain Jérôme Leroy. Très bon dimanche à l'écoute de France Inter.